On parle d'une petite fille ce matin, Claude.
Qui est dans la dépêche, Manuela, qui reprend goût à la vie à l'hôpital Purpan de Toulouse, pourtant avec le bassin en compote. Il y a deux semaines, Manuela avait sauté de la fenêtre de l'appartement de ses parents au 5e étage d'une résidence de Saint-Cyprien, juste après avoir ouvert la porte de l'immeuble par l'interphone à sa maman. Elle avait laissé un mot sur la table de la cuisine. « Pardon, je ne gaspillerai plus l'argent. Maman, je t'aime, je vous aime. » Car Manuela s'en voulait d'avoir acheté pour 400 euros de jeux sur Internet en se réveillant à l'hôpital. Elle a dit à son père « Et l'argent, papa, c'est bon. » Et elle l'a embrassé. Mais il y a autre chose dans cette histoire qu'une gamine piégée par Internet et par sa culpabilité. Et l'article se termine ainsi par deux phrases qui veulent raconter la personnalité de la petite fille. Sensible au bien-être de ses parents, Manuela avait écrit une lettre au président de la République pour qu'il puisse aider sa famille et ses deux jeunes frères autistes. Ces deux jeunes frères autistes dans l'espoir d'une vie meilleure. Et le journal ne nous en dit pas plus. On ne peut ensuite qu'ensuite imaginer ou deviner les fragilités d'une famille et d'une petite fille. C'est la journée de sensibilisation à l'autisme et les plus attentifs de nos journaux en sont dignes avec d'infinies précautions. Tel le Béret républicain qui raconte un enfant sur le parcours du diagnostic. Tel le Monde qui nous montre comment par le jeu à la toupie de Maya à boucle blonde, des parents s'approchent de l'attention et du regard de leurs enfants. Mais parfois, sur ces pistes fragiles, des vandales viennent tout ravager. À sa une, le Parisien dénonce les escrocs de l'autisme, charlatans et malfaisants qui profitent de parents fragiles. Un gourou a fait dépenser à Estelle 6000 euros de compléments alimentaires pour soulager son enfant et un médecin a dit à Stéphane que c'était les vaccins qui avaient rendu son fils autiste. Avec Olivia Catan, maman d'un garçon autiste et militante, le Parisien nous révèle une tourbe, mais avant les escrocs, il y a cette solitude des parents et ce temps qu'il faut pour être pris en charge. 1 an et demi d'attente à Créteil, 3 ans et demi dans le Finistère, comment alors refuser les mirages ? La Provence propose un miracle qui viendrait de Marseille où cherche Yeskiel Benhari, un neurobiologiste dévoué à la cause de l'autisme. Il teste sur 400 enfants avec les laboratoires Servier, un médicament qui ne guérira pas l'autisme, cela n'existe pas, mais qui pourrait améliorer la sociabilité des enfants autistes en contournant les barrières neuronales qui les retiennent face aux autres.
Et on parle de richesse également, Claude.
Une richesse qui scotche le Financial Times, le Figaro comme les Échos. Le groupe pétrolier saoudien Saudi Aramco a dégagé 111,1 milliards de dollars de bénéfices l'an dernier. Elle est la compagnie la plus profitable du monde, plus rentable que tout le CAC 40 réuni, nous disent les Échos. Elle n'avait jamais publié ses comptes à Aramco, mais là elle devait le faire car elle veut emprunter sur les marchés pour acheter une autre entreprise. Et voyez-vous, Aramco la prospère a des fragilités, son avenir n'est pas garanti, me dit le Financial Times, car l'État saoudien la ponctionne à 50% pour financer le train de vie de ses princes et aussi des dépenses militaires. Il est d'autres textes plus modestes mais bien utiles. Les Échos encore me racontent comment l'Europe a sauvé les vélos européens menacés par la Chine et autres conquérants asiatiques. Comment elle les a-t-elle sauvés ? Par des taxes anti-dumping qui vont de 10 à 70%. L'économie est une guerre, rien n'y échappe. Dans l'équipe, le Suisse Bertrand Piccard, qui fait le tour du monde en avion solaire, nous glace dans cette prophétie. Les dinosaures auraient dû parler aux oiseaux, dit-il à propos de l'industrie automobile européenne, dinosauresque, qui ne sait pas innover. Dans le Figaro, on me raconte une histoire qui se voudrait joyeuse mais qui n'est que sordide. En Finlande, à Oulu, dans la ville qui fut la capitale de Nokia mais que la crise a saisi, des entrepreneurs se jettent dans l'eau glacée de la banquise pour vendre leur start-up aux investisseurs. Les corps sont un outil. En Inde, je le lis dans Le Monde, des politiciens se suicident pour attirer les lecteurs. Tel Arun Pathak de Benares qui s'est coupé les veines, a avalé du Valium, s'est immolé et s'est jeté dans le Gange, une pierre attachée à la jambe. On l'a rattrapé, il fait tout ça, cet homme, au nom du bien de la nation, et pour qu'on l'entende, c'est plus simple, monsieur le président, de passer à la télé ou à la radio. La Croix publie une liste de 566 noms, ceux des morts de la rue, l'an dernier en France, quand Aramco faisait 111 milliards de bénéfices. Dans un quartier de Paris, Pernetti, me dit le Parisien, on va rendre hommage à André, qui était sans abri et égayait les rues de son vélo décoré de doudou et d'un drapeau du PSG. Il est mort il y a 2 semaines à la Pitié-Salpêtrière. Le père François de la paroisse Notre-Dame du Travail priera pour ce brave type. Est-il meilleur épitaphe que ces deux dernier mot.
Et le communisme s'expose à Paris.
Qui fut une espérance et un dérèglement esthétique avant de mal tourner et de subir le réalisme d'État. Et ce communisme nourrit l'humanité. Libération, quelle plume, Philippe Lançon. Et une revue que je vous conseille, L'œil tout entière consacrée à l'image. Ces trois journaux nous racontent une exposition au Grand Palais où l'on brasse l'art soviétique de 1919 à la mort de Staline. Libération me cite ces mots désabusés d'un linguiste russe de l'époque. Nous nous sommes jetés vers l'avenir avec trop de fougue et d'avidité pour pouvoir garder un passé. Nous n'avons plus la sensation d'une activité actualités qui se suivent à elles-mêmes, nous avons perdu le sentiment du présent. Parfois, en notre âge technologique, ce vertige communiste est aussi le nôtre.
Merci Claude.